bonjour quoi.
Bonjour Harrison, ça va ?
Ça va. Est-ce que tu voyais ce jour venir ?
Oui, mais pas si tôt. Je pensais qu'il fallait, on allait attendre des semaines, des mois, mais finalement non.
Oui. C'est un criminel en fait.
Oui. Aux yeux de l'État de New York.
Aux yeux de 12 citoyens corrompus payés par le Parti démocrate.
Ouais, avec un juge corrompu en plus. Aujourd'hui, on va parler de cette décision, enfin décision là, oui, le verdict tombé, enfin, Donald Trump, notre cher ex-président reconnu coupable.
Ouais. Le procès du siècle.
Le procès du siècle. Et c'est encore plus intéressant parce que faut dire que moi et Harrison, on avait enregistré tout un épisode hier.
Pour vous, hier, oui.
Sur les différents procès en cours, 4 procès différents.
On s'est dit qu'avec l'actualité, on ne pouvait pas ne pas le traiter de façon chaude avec l'actualité qui est tombée hier. Moi, je rentrais, je prenais des verres avec des potes. Et je reçois un SMS de Cole disant « ça arrive, il faut que tu regardes le CNN ».
J'ai pas dit « ça arrive », je t'ai envoyé un tweet avec, qui disait que, avec des informations. Je suis pas non plus Paul Revere, ouais.
Mais quand même, nous y voilà. Donc, nous avions hier soir, je pense que c'était à 17h à New York, que la jury dans le procès de Trump concernant des paiements qu'il aurait fait à Stormy Daniels, donc une ex-actrice de films adultes porno. Donc, ça concerne des paiements que Trump aurait fait à cette actrice par le biais de son avocat Michael Cohen dans les jours précédant l'élection en 2016, des paiements faits pour acheter sa silence concernant une relation extra-conjugale que Trump aurait eue avec elle. Donc, Trump, il est déclaré coupable pour quoi ?
Donc, il y a ces 34 faits différents pour les 34 documents comptables qui, j'allais dire, auraient été falsifiés, mais est-ce qu'on peut dire ont été falsifiés puisque le jury a rendu sans verdict. En tout cas, pour ces 34 faits différents qui correspondent à 34 documents qui ont été falsifiés selon le procureur. Ensuite, pour que ça devienne un vrai crime, un felony, un crime aux yeux de l'État de New York, il faut qu'il y ait d'autres lois, il fallait ne pas respecter d'autres lois en plus de ça. Et donc c'est ce que les procureurs ont essayé de montrer, que Trump, en falsifiant ces documents, aurait violé d'autres lois dans l'État de New York, dont 3 lois précisément, donc une loi qui empêche des candidats à ne pas respecter la loi en faisant campagne, on peut le dire que comme ça, en essayant d'être élu. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, il y avait
de circuiter les lois sur les impôts, la loi fiscale. Et troisièmement aussi de contourner les régulations sur les financements des campagnes. Donc peut-être pour faire...
Même au niveau fédéral, donc c'est
au niveau fédéral, oui. Donc là, on parle encore une fois d'un tribunal de l'État de New York. On n'est pas dans un circuit fédéral. Là, Alvin Bragg, qui est le procureur qui a monté cette affaire, c'est un procureur élu par les citoyens new-yorkais. C'est le troisième élément, c'est que Trump, en achetant la silence de cette actrice, Stormy Daniels, il a fait en fait des dépenses de campagne qu'il n'a pas citées comme telles. Donc il aurait demandé à Michael Cohen de lui payer de son propre argent, et puis Trump a fait passer de l'argent à Michael Cohen alors que ça aurait dû être considéré comme des frais de campagne parce que ça concernait son image dans les jours, dans les semaines avant l'élection de 2016.
Et donc la prochaine étape maintenant, c'est dans quelques semaines, le juge va prononcer la peine de Trump. Donc, en théorie, bon, Trump il risque jusqu'à 4 ans de prison pour chaque fait, pour chaque document falsifié, pour chaque chef d'inculpation. Sauf que, en toute probabilité, Trump, enfin, selon ce qu'on lit, Trump va probablement ne pas aller en prison. Même si il faut vraiment attendre ce que dit le juge.
Parce qu'il s'agit d'une première inculpation. Donc,
Oui, donc il faudrait attendre, si je ne me trompe pas, jusqu'au 11 juillet. Donc où, à ce moment-là, le juge prononcera la peine. Et puis ensuite, ça on le sait aussi, l'équipe de Trump va faire appel tout de suite. Et donc ce dossier est loin d'être réglé, puisqu'on aura bon, d'autres audiences. Il y aura sans doute un procès en appel.
Oui, oui. Et avant, peut-être, on va sûrement parler des autres affaires juridiques qui concernent l'ex-président. Mais je pense qu'il faut aussi juste noter que c'est ce procès parmi les quatre principaux, parmi les quatre procès auxquels il fait face, qui sera un peu le seul qui va déboucher en fait sur un procès et sur un verdict avant l'élection de novembre. Donc celui-ci occupe en grande partie l'attention, la grande part de l'attention médiatique. Donc ça, c'est une chose à noter, que cet verdict de Trump, c'est vraiment le seul qui va arriver en raison des plusieurs délais et de retard ouais. dans les autres procès, notamment en Floride, en Géorgie et en un dernier procès fédéral à Washington DC.
Donc pour rappel, en effet, on a ce procès en New York, dans l'état de New York, on a un procès en Géorgie et puis on a deux procès au niveau fédéral, les deux procès. Dont un me semble particulièrement important, mais peut-être on parlera des autres procès oui. plus tard. Commençons tout de suite sur juste, on a déjà commencé, mais les réactions. Harrison, est-ce que tu étais content de voir cette décision prononcée, est-ce que tu étais content hier?
Est-ce que je suis content? Content, bon, c'est un peu un gros mot. Parce que je partage le soulagement de la campagne de Biden, comme quoi nul n'est au-dessus de la loi. Bon, ça, oui, Trump, c'est le premier président à avoir été condamné pour les faits criminels. Et surtout le seul, c'est pour tes candidats, à avoir été condamné pour les faits criminels. Donc ça, bon, c'est assez... C'est assez intéressant de voir que même quelqu'un qui est au sommet du pouvoir de la société peut être inculpé en quelque sorte. Bon, ok, on peut se vanter et dire qu'on a un système juridique qui tient malgré les diverses attaques et les diverses menaces qu'il a mises. Mais bon, oui, est-ce que ça c'est de quoi être content? Peut-être. J'ai surtout un sort de sentiment de c'est quoi le mot, anti-climax peut-être. Cette affaire... C'est comme, je pense, toi et moi, pour le comparer vis-à-vis des autres procès qui visent Trump, c'est un peu le plus passéiste, en quelque sorte. Là, on parle des faits dans l'avant-élection 2016. Ça fait revenir plein de souvenirs et d'événements qui sont tellement, tellement, tellement lointains maintenant. C'est presque 8 ans qu'on connaît, c'est plus que 8 ans qu'on connaît Trump en tant que figure politique, en tant que chef de file de l'extrême droite américaine. Décevant, est-ce que c'est ça le bon mot? Je sais pas. Mais encore une fois, cette affaire, ça fait remonter une période où Trump s'associait de son image, en quelque sorte. On en est tellement, tellement loin de cette période où, bon, à se dire que Trump, il va hacher la silence de quelqu'un parce qu'il a peur des réactions que la fuite de l'information concernant sa vie amoureuse. On est dans une autre période. Bon, ça rappelle aussi, ou ça fait repenser également à des autres affaires qui a eu lieu en octobre 2016. Bon, notamment... l'achat de la silence ou la tentative d'acheter la silence de Stormy Daniels, ça suivait quoi? Ça suivait cette affreuse séquence après la sortie des enregistrements de Donald Trump au moment des Access Hollywood Tapes, donc un média américain qui a fait fuiter ou qui est sorti que Trump aurait dit à un de leurs producteurs en parlant de les femmes d'une façon complètement affreuse, il aurait dit je peux, en raison de ma pouvoir, je peux les attraper par le sexe, quoi. Il a dit ça et ça, ouais, c'est absolument dégoûtant. Bon, ça c'était un peu présenté comme la première grande crise de la campagne Trump qui allait enfin dévoiler à toutes les gens de la classe moyenne, la bonne classe moyenne américaine, que c'était pas une figure respectable. On sait tous que c'était pas du tout le cas. Donc quand même, bon, cette affaire, ça fait remonter à une autre période de l'époque Trump, en quelque sorte. Les premiers scandales, et on en est tellement loin. Donc c'est un peu un sentiment de je sais pas si anticlimax c'est le bon mot, mais bref, j'en ai trop parlé.
Non, mais je suis d'accord, et c'est ce qu'on disait hier. Ça me rend un peu, nostalgique de cette période où, oui, en effet, un candidat au présidentiel s'inquiétait pour son image. Donc il y a non seulement, voilà, le fait d'avoir des relations extra-conjugales qu'il considérait comme, il pensait, ouais, que c'était un problème, et puis c'est surtout ce deuxième point tu as bien fait de parler de l'enregistrement de Access Hollywood, parce que donc à ce moment-là, Trump voulait pas être vu comme un gros porc horriblement sexiste. On pensait qu'il allait perdre l'élection à cause de cet enregistrement, mais finalement ça a eu très peu d'impact. Et puis on est vite passé au moment où, bon, il y a la fameuse citation de Trump où il dit qu'il peut se mettre en pleine rue à 5e avenue à New York et il peut tirer sur des gens et que ça aura aucun impact sur son image. C'est une des choses les plus vraies, véridiques qu'il a jamais dit, où il a compris vraiment son... il a compris à quel point il était fort et respecté par une base conservatrice. Et donc peut-être pour parler un peu de cette base conservatrice, parce qu'une des grandes questions qu'on se pose, c'est est-ce que finalement ce procès va avoir un impact sur les élections? Enfin, c'est une des questions les plus intéressantes, les plus importantes à se poser.
Sachant encore une fois que c'est le seul qui va déboucher sur un verdict, probablement avant novembre.
Ouais, en toute probabilité. On n'est pas sûr et certain, parce qu'il y a un des procès où... Mais oui, en effet, en toute probabilité, c'est le seul procès où on aura un verdict. Et donc, déjà, il faut commencer avec les réactions de la base républicaine, de la base conservatrice. Je pense que pour eux, enfin, j'ai envie de dire, malheureusement, ça ne change strictement rien. Eux, ils étaient déjà... ils avaient déjà leur... ils sont déjà convaincus que tout ça, ce n'est qu'un procès politique, que tout ça, c'est un complot pour combattre leur chef. Et ça, ils avaient... maintenant que le verdict est tombé, ça ne change strictement rien. Donc ouais, je trouve ça intéressant quand l'équipe de Trump et tout la base républicaine, ils disent que c'est une chasse aux sorcières politiques. Et je pense qu'ils ont raison en quelque sorte, mais pas pour les mêmes raisons. Donc, tu sais, ça me fait penser au procès de sorcellerie qu'on a eu dans le Massachusetts fin 17e siècle, et puis même un peu partout en Europe, où il y avait la pratique de ce qu'on appelait l'ordalie, le jugement par l'eau, où on mettait, on plongeait les femmes accusées de sorcellerie dans de l'eau avec une pierre, et puis si elle flottait, c'était la preuve qu'elle était une sorcière, et puis si elle coulait, elle était innocente. Sauf que bon, dans ce cas-là, c'était souvent trop tard pour la sauver. Elle est morte. Et donc, quoi qu'il en soit, elle est foutue. Si on vous accuse de sorcellerie, on vous impose un jugement par l'eau, vous êtes dans la merde. Il n'y a pas vraiment d'issue. On sait comment l'histoire se termine. Et j'ai envie de dire que c'est un peu pareil pour les sympathisants de Trump qui suivent ce procès. Ils savaient déjà comment ils allaient réagir. Le procès n'allait que confirmer ce qu'ils pensaient déjà, c'est-à-dire que si par miracle Trump était reconnu non coupable, eh ben ça aurait été la preuve que en fait on était face à un procès politique absolument dégueulasse, sans fondement juridique, finalement les procureurs n'avaient rien, etc., etc., et que si Trump est coupable, ce qui est le cas, c'est aussi la preuve que c'est un procès politique mené par un juge corrompu pour toutes les mêmes raisons, en fait. Donc ça change rien, et c'est ce qu'on voit maintenant. Ils savaient déjà comment ils allaient réagir, et donc ce procès ne confirme ce qu'ils pensaient déjà. C'est ce qu'on voit avec les réactions pour l'instant. Là, on parle de la base républicaine. à voir si les gens normaux, entre guillemets, les gens qui ne sont pas déjà des électeurs républicains, comment eux ils vont réagir. Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour la base républicaine, il n'y a pas de doute.
Bah, sur les entre guillemets gens normaux, là, il y a aussi, bon, c'est peut-être trop tôt pour le savoir, mais il y a des raisons de douter que ça va vraiment peser aussi. Genre, dans les sondages que moi j'ai vus ces derniers jours, c'est une assez petite minorité des gens qui suivent ces procès. Bon, peut-être ça changera avec un verdict, mais il y a des raisons de croire qu'il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas énormément des gens qui suivent les déboires pénales et juridiques de l'ex-président. On peut le regretter, mais en quelque sorte, on se demande si après ces 8 ans, ces 9 ans, on n'a pas encore fait une opinion sur la probité éthique ou morale ou personnelle de Donald Trump. Est-ce que cette verdict, qui déjà, dans les médias américains, est présenté d'une façon tellement clivée, si on n'a pas encore tranché et fait une décision, est-ce que ça va vraiment faire basculer le rapport de force à cet égard? Je ne sais pas. Il y a des raisons de douter.
Bah, on peut
le regretter, peut-être. Mais...
Moi, je ne suis pas forcément d'accord parce qu'on ne sait pas. Moi, je pense qu'on risque... Enfin, avec un verdict qui est tombé, tous les médias en parlent partout. Maintenant, on n'est plus dans des accusations, on est dans des décisions. Il est reconnu comme coupable. Je pense que ça pourrait avoir un impact. Je ne sais pas. Et là, c'est purement... Il faudrait voir les prochains sondages et essayer d'en tirer les conclusions tout. Mais tu as peut-être raison. Mais je pense qu'on ne sait pas encore.
Tous les médias en parlent, en effet. Bon, là, je regardais vite fait hier soir... Comment Fox News, par exemple, présentait ses verdicts. Et là, c'est présenté comme un procès complètement dévoyé, comme une énième exemple d'un complot démocrate, libéral, visant leur champion. Mais chez Fox News, là, on parle et on s'approche des milieux de l'élite du mouvement conservateur. Et c'est encore une fois l'énième exemple du fait que c'est pas que la base, c'est aussi l'élite, l'hiérarchie du mouvement conservateur qui se range derrière Trump. Là, ça m'a fait repenser un peu au moment de l'immédiatement après 6 janvier. On va y revenir plus tard, je pense, dans cet épisode, où, je veux pas trop défendre Fox News, mais il y a eu des tentatives, où il y a eu un débat au sein de Fox News, quand enfin on savait que Trump allait quitter la Maison Blanche. Il y a eu des tentatives au sein de Fox News de peut-être se distancier de leur candidat. On parlait d'une sorte de guerre froide entre la famille Murdoch et Donald Trump. Il y a aussi, Fox News a eu des procès pour diffamation visant des entreprises qui géraient le dépouillement de vote. Ces machines qui fait le calcul des votes dans les États. Et Fox News voulait en quelque sorte se distancier par rapport à Trump. Et là, on voit que c'est un retour à la discipline partisane de Fox News. Bon, on savait ça depuis un an ou deux déjà, que toute distance qu'il y a eu vers en début 2021 entre Fox et Trump n'existait plus, mais là c'est la confirmation qu'on entend tous les chroniqueurs sur Fox News dire que cette verdict est complètement absurde et une attaque contre les droits constitutionnels d'un citoyen Donald Trump. On voit que la discipline est de retour.
C'est toujours drôle de regarder Fox News parce que moi, comme toi, je regardais hier parce qu'évidemment, il faut regarder dans des moments comme ça. Hein. C'est fait pour la télévision, des moments comme ça. Donc c'était génial, j'ai regardé Fox News. Mais c'est marrant parce qu'il y a le style, tu as à la fois des vrais journalistes qui sont là en train de parler des faits, d'informer les spectateurs. Et puis en même temps, donc, ils sont en direct avec... les gens complètement dingues sur les plateaux. Hier, il y avait Judge Jeanine, qui est une ancienne procureure devenue complètement extrémiste, qui est éditorialiste. Et donc, elle est toute seule sur le plateau en train de décrypter le procès avec la vraie journaliste qui, elle, est sur le terrain en train d'expliquer ce qui se passe. Et on sent qu'elle n'a pas trop envie de se mouiller, elle a que envie de donner les faits. mais elle est face à Judge Jennings qui est en meltdown total, en train de vriller, en parlant à quel point c'est un scandale et que Trump est poursuivi pour des raisons politiques, etc. Donc moi, je trouve ça juste à titre personnel, hein, en tant que journaliste et puis quelqu'un qui a travaillé à la télé, drôle de voir ce clash en fait de style à Fox News. Ils essaient quand même d'avoir des vrais journalistes, mais parfois ça passe moins bien. Donc ouais, Fox News, c'est drôle. Mais je ne sais pas, est-ce que c'est le moment de parler de...
Des autres affaires,
parce que c'est quelque chose qu'on se disait aussi. En tout cas, pour moi, je trouve ça presque... je trouve ça dommage en quelque sorte que c'est le seul procès dont on aura un verdict avant les élections. Parce que sur les quatre procès, donc encore une fois, les deux procès en New York et en Géorgie, puis deux procès au niveau fédéral, c'est le procès le moins grave, j'ai envie de dire, dans les faits, enfin, qui sont reprochés à Donald Trump. C'est le procès le moins grave, c'est le procès le moins important d'un point de vue politique, moins intéressant. Les autres procès, à mon avis, sont plus intéressants. Donc, rapidement, et puis tu pourrais compléter, Harrison, mais rapidement pour rappeler aux ceux et celles qui nous écoutent. Donc, on a ce procès en Géorgie où Donald Trump est accusé de fraude électorale. C'est en Géorgie où il aurait appelé un responsable de l'État en lui demandant de lui trouver, entre guillemets, trouver des milliers de bulletins de vote pour remporter l'État aux élections présidentielles en 2020. Donc c'est un procès quand même assez conséquent d'un point de vue politique. Ça, c'était en Géorgie. Et puis on a deux procès au niveau fédéral. Le premier où Trump est accusé d'avoir retenu des documents classifiés. Donc ça, pour moi, c'est moins important. Mais puis le quatrième procès, pour moi le plus important, c'est là où Donald Trump est accusé de complot contre les institutions américaines et d'atteinte au droit de vote des électeurs suite à cette tentative de renverser les résultats des élections en 2020, qui culmine évidemment avec le putsch raté, la tentative de coup d'État le 6 janvier 2021, qui vraiment touche au cœur de la démocratie américaine. Oui. Je trouverais ça mieux si ça aurait été bien de parler de ce dossier, cette affaire juridique qui met le 6 janvier au cœur du débat politique. Ce serait mieux de parler de ça que de parler de paiement pour acheter le silence d'actrice porno, quoi.
Je suis d'accord. Sur ces trois autres procès, on est face à des niveaux de délai et de ralentissement pour diverses raisons. C'est un peu en partie aussi la stratégie de la défense de Trump. En Floride, il faut le noter, c'est le procès en Floride sur les documents que Trump aurait pris en partant, les documents confidentiels de l'État qu'il aurait pris en partant de la Maison Blanche. Et dans ce procès-là, il fait face à un juge nommé par Trump, en fait. Donc un juge fédéral dans le circuit de la Floride qui, à ce qu'il paraît, à ce que je lis dans la presse, travaille pour ralentir ce procès et pour faire en sorte qu'il n'y aura justement pas procès avant novembre. Si on revient à Washington, donc là, c'est, comme tu disais, un peu le procès qui touche au cœur de l'attaque de Trump entre novembre 2020 et janvier 2021, l'attaque de Trump contre les institutions démocratiques. Là, qu'est-ce qui ralentit le procès en ce moment? C'est une saisine du Cour suprême sur une potentielle immunité présidentielle qui devrait donc protéger le président de ses potentiels faits criminels. Et là, cette saisine du Cour suprême est actuellement en cours de délibération. Donc il y a eu des arguments en fin avril par la défense et la prosecution sur cette affaire. Et on attend la décision du Cour suprême fin juin. Une anecdote, ou peut-être, c'est même pas une anecdote, mais un élément de cette épopée juridique qui montre en quelque sorte l'absurdité et aussi le niveau de la politisation du système judiciaire, pour reprendre en quelque sorte le langage de la droite. Cette Cour suprême qui va trancher sur cette question de l'immunité, donc une énorme question. Il faut savoir que là, on est face à d'énormes conflits potentiels idéologiques et politiques. Notamment ces derniers jours, ce qui a fait tollé, c'est vous avez un juge, Samuel Alito, qui a refusé de se retirer de la décision ou des délibérations sur cette affaire de l'immunité présidentielle, en dépit du fait qu'il y a quelques semaines, il est sorti que la maison de Samuel Alito, donc un des 9 juges de la Cour suprême, la maison de cette juge, lui et sa femme, ils ont montré un drapeau, un symbole trumpiste en janvier 2021, donc au moment du mouvement, au sommet du mouvement Stop the Steal. Donc il y a eu le climax du 6 janvier qu'on connaît tous. Ils ont montré devant leur maison un drapeau
retourné,
donc un drapeau américain sans dessus, qui était un des symboles de l'extrême droite sur cette affaire. Donc là, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que Samuel Alito est loin d'être un sage interprète qui ne va que penser cette affaire par la Constitution ou par le droit. Évidemment, il regarde, lui, qu'est-ce qu'il voit quand il va considérer tous ces procès juridiques contre Trump. Il va y voir, Samuel Alito, il va y voir ce complot démocrate dont on entend parler sur toutes les chaînes d'extrême droite, dans tout le milieu conservateur.
Mais attends, Harrison, parce que Alito a dit que c'était sa femme qui était responsable. C'est sa femme qui aurait décidé de mettre ce drapeau devant leur maison. Donc, je rigole même pas, en fait. C'est la défense de Samuel Alito. Il a dit que c'était, il y avait un conflit entre voisins et donc sa femme pour, je sais pas, il a pas trop expliqué pourquoi, mais c'était dans le cadre d'un conflit de voisinage que voilà, sa femme aurait mis le drapeau.
Ouais, dans un des banlieues houppées de la Virginie.
Voilà, le banlieue de Washington en Virginie. Mais, et puis encore, il y avait encore une autre histoire. Donc là, ça date d'une semaine. Il y avait un autre papier dans le New York Times qui montrait que, pareil, devant cette fois-ci la maison de vacances de Samuel Alito dans l'état de New Jersey, qu'il y avait un drapeau qui est un autre symbole de l'extrême droite américaine. C'est ce qu'on appelle le Appeal to Heaven flag. Et moi, je t'avoue que je ne connaissais pas ce drapeau avant parce que je ne suis pas un expert de tous les symboles bizarres de l'extrême droite américaine. Mais je pense que quand vous avez un drapeau comme ça, ça montre que vous avez quand même une certaine compréhension des symboles de la droite dure, de l'extrême droite aux États-Unis. Et donc, voilà, Alito et sa femme, pour le coup, ils avaient tous les deux également un drapeau avec ce symbole qui date de la guerre d'indépendance, de la révolution américaine, avec un arbre.
On pourrait aussi évoquer Clarence Thomas, un des autres juges sur la Cour suprême, dont la femme était impliquée dans la pression sur la partie républicaine pour vraiment contester les résultats des scrutins dans certains États au courant du novembre et décembre. Donc là, on voit que c'est cette Cour suprême qui va trancher sur une potentielle immunité du président Trump d'ici fin juin, qui concernera notamment les procès en Géorgie et à Washington DC sur les tentatives de faire renverser les résultats de l'élection de 2020. Cette Cour suprême qui va trancher sur l'immunité présidentielle, c'est loin d'être une institution non biassée en quelque sorte.
Et puis il y a une autre grande, énorme question constitutionnelle qui se pose, enfin qui pourrait se poser en fonction des résultats en novembre. C'est que si Donald Trump est élu, est-ce qu'il aurait potentiellement la possibilité de s'auto-gracier des crimes qui lui sont reprochés? Parce que les présidents américains ont la possibilité, ont le droit de gracier des détenus qui sont coupables de crimes au niveau fédéral, et aussi des gens qui sont poursuivis au niveau fédéral. Et donc Trump, est-ce que, grande question constitutionnelle, est-ce qu'il pourrait s'auto-gracier? Et donc, comme on est encore une fois dans une situation complètement inédite, comme les journalistes aiment bien nous rappeler, est-ce qu'on pourrait faire confiance? Cette question va évidemment, si jamais la question se pose, si Trump est élu, évidemment la question va se retrouver, on va se retrouver devant la Cour suprême avec ses juges à majorité conservatrice, a tranché sur cette question. Et bon, est-ce qu'on a confiance que les juges faire une décision juste, je ne suis pas sûr. Mais là c'est encore une autre question qui se pose. Mmh. Parmi les 1000 questions, les 1000 scénarios complètement inédits dans lesquels on se retrouve aujourd'hui.
Bon, il y a la loi, c'est la loi. Et si quelqu'un est en infraction contre la loi, oui, il faut qu'il y ait poursuite. Mais encore une fois, je veux un peu revenir sur ce sentiment que moi j'ai d'anticlimax en quelque sorte. Il faut se remettre un peu sur le temps long. Ces procès, bon, maintenant on a un verdict coupable pour 34 faits criminels dans l'État de New York. On aura d'autres procès, comme on vient de faire un peu le résumé. Mais sur le temps long, c'est pas la première fois où il y a des accusations de criminalité visant Trump, de grosses affaires de corruption. Ça a été depuis la victoire de Trump en 2016, ça a été une des victoires, une des grandes lignes en quelque sorte de l'accusation de Trump et de l'opposition à Trump, c'était de, il faut poursuivre cet ennemi de la démocratie américaine, cet ennemi politique, il faut le poursuivre pour des faits criminels. Entre 2016 et 2018, 2019, c'était quoi? C'était l'enquête de Trump concernant une éventuelle influence russe dans la campagne de 2016. Ce qui, si on se rappelle, c'est Robert Mueller qui était l'enquêteur spécial sur cette affaire, qui a débouché sur une conclusion décevante pour le Parti démocrate, disant que Trump, non, en vrai, il n'y a pas vraiment de justification. Il y a eu aussi, en début 2020, une première procès pour destitution au Congrès visant Trump, cette fois-ci pour un appel que Trump aurait fait à président Zelensky en Ukraine pour lui demander d'enquêter sur la famille Biden. On sait tous que ce procès a échoué devant le Parti républicain au Congrès. Il n'y a pas eu procès de Trump pour le destituer du pouvoir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas poursuivre quelqu'un qui a commis des faits criminels, mais j'essaie un peu de le remettre dans une certaine espoir des pages éditoriales du New York Times que l'accumulation de ces faits allait effectivement ou allait enfin ternir l'image de cette figure. Et encore une fois, on ne le voit pas encore. Et je sais, tu vas dire que c'est trop tôt pour le savoir peut-être.
Oui.
Mais encore une fois, j'ai l'impression que ça va pas en finir avec l'entre guillemets menace Trump. C'est comme tu disais tout à l'heure, comme on disait tout à l'heure, ça nourrit encore une fois le sentiment de complot qui fait en quelque sorte la force de l'extrême droite aux États-Unis. Moi, je repense et je repensais ces derniers jours à un article par le journaliste James McCauley qui était à cette époque-là, il était le correspondant du Washington Post à Paris. Et lui, dans l'après 6 janvier, il a écrit un papier pour The Atlantic qui faisait la comparaison un peu pour le mouvement l'extrême droite et le mouvement Stop the Steal. Il a fait la comparaison de le déni de l'élection 2020 et ce procès que ces gens-là ils voyaient viser Trump. Il a fait la comparaison avec l'affaire Dreyfus en France. Et bon, on a l'impression que cet sentiment de complot visant leur champion, c'est ça aussi qui fait en quelque sorte la force de cette énorme sphère de la société américaine. Et je pense pas que ça va finir pour l'instant.
Et pour que les choses soient claires, si ce n'est pas évident, quand James McCauley fait ce papier, il ne dit pas que Donald Trump est poursuivi de manière injuste comme Alfred Dreyfus, mais il parle plutôt de ce que représente l'affaire aux yeux des conservateurs américains.
Oui, oui.
Et en effet, c'est assez inquiétant. Là, pour le coup, il parlait des événements du 6 janvier, mais en si on met ensemble tous ces différents procès, ce qui est dommage parce que je trouve qu'il y a des procès qui sont plus importants que d'autres, mais en tout cas aux yeux de la droite, en effet, et là je suis d'accord, ces procès sont représentent voilà forment une sorte de ouais de c'est un complot contre le président apprécié par la droite, un complot complètement injuste, et ça risque d'être une grande ligne de fracture pour les décennies à venir. Quand tu vois comment les gens parlent, comment ils réagissent à ce verdict, c'est très 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 inquiétant. À quel point on est complètement divisé. Je sais que je raconte c'est un peu des banalités, mais c'est inquiétant. Mais pour peut-être aller un peu plus loin, ce qui m'inquiète peut-être plus que bon le fait qu'on est divisé, fracturé, bon parce que ça fait un petit moment. On risque de passer encore à une autre étape. Non seulement on est divisé, fracturé d'un point de vue politique, mais si jamais les Républicains arrivent au pouvoir, si jamais Donald Trump est élu, ça fait beaucoup de si, mais c'est pas impossible. Si Donald Trump est élu, je pense qu'on risque de voir des poursuites quand même judiciaires. Il a déjà dit hein, qu'il est prêt à poursuivre ses adversaires politiques au pénal. Et c'est ce que veulent faire beaucoup de républicains. Et j'ai entendu la même chose hier en écoutant Fox News. Donc c'est non seulement, on n'est pas seulement dans une phase d'hyper-polarisation où on est divisé, les États rouges contre les États bleus, bavard, etc. Mais j'ai l'impression qu'on est en train de passer à encore une autre étape où on va voir, voilà, ce qu'on appelle ailleurs du lawfare. Voilà, cette utilisation du système judiciaire à des fins politiques, comme on voit bon, au Brésil et en Afrique du Sud, je sais pas ailleurs. Le problème, c'est que cette accusation de lawfare, c'est quand même très très grave, et c'est comme ça qu'ils parlent déjà, les républicains. Et donc, donc je pense que de leur point de vue, ils sont prêts, quand ils arrivent au pouvoir, ils sont prêts à monter des dossiers, à poursuivre leurs adversaires politiques. Ça m'inquiète beaucoup.
C'est une déclaration de guerre pour eux.
Oui.
Tout simplement. La liste des gens que Trump il s'apprête à nommer à des postes. Il a dit je vais nommer une commission d'enquête pour enquêter sur les enquêteurs sur le 6 janvier. Je vais nommer une commission d'enquête qui va enquêter sur la famille Biden. On va poursuivre Alvin Bragg, on va poursuivre Jack Smith, le procureur fédéral, pardon, le conseiller juridique sur le 6 janvier.
Le procureur spécial,
Oui, le procureur spécial. Donc la riposte se prépare.
Et puis encore une fois, je sais que c'est complètement théorique, mais moi, je me dis quand même que si on était en train d'aujourd'hui de débattre le fond de ce énorme procès fédéral où Trump est accusé d'avoir monté un complot pour arriver au pouvoir de façon illégale en ne pas respectant les résultats de l'élection présidentielle, peut-être là, ce serait une autre discussion. Ou peut-être certains électeurs ou des gens qui lisent la presse, qui regardent la télé, ils réagiraient de manière différente. Le problème, c'est qu'au lieu de débattre ce qu'a fait Donald Trump pour essayer d'arriver au pouvoir, pour essayer de monter un coup d'État, au lieu de débattre ça, on est en train de parler de virement pour acheter le silence d'une actrice. Et c'est peut-être moi, juste mes illusions. Mais je pense que c'est dommage qu'en quelque sorte qu'on est en train de débattre ce procès-là et pas les autres procès, notamment le procès qui concerne le 6 janvier. Mais bon, en tout cas, on peut pas changer les faits. On est là, on est dans ce moment bizarre.
À suivre. J'ai hâte pour le 11 juillet.
Bon, ce serait intéressant, oui. Et le 11 juillet, d'ailleurs, on n'a pas dit, c'est quelques jours avant le congrès du Parti républicain.
Ouais.
Donc ça c'est drôle aussi.
C'est où le congrès du Parti républicain?
Il me semble que c'est à Milwaukee, Wisconsin, dans le Wisconsin.
Wisconsin, ok.
État pivot, état clé pour le Parti républicain.
Alors que le Parti démocrate se remet à Chicago
pour
une convention.
Pour revivre, les événements de 1968.
Voilà, ouais. On s'arrête là, Cole.
Ouais, je pense qu'on va s'arrêter. Et puis, dans un prochain épisode, on va parler de... Parce qu'on a beaucoup parlé... Enfin, on a commencé à parler des institutions, et notamment la Cour suprême.
Oui.
Dans un prochain épisode, on va parler de manière un peu plus détaillée de cette institution qui a beaucoup de pouvoir et qui est pas si démocratique que ça, finalement.
Et également, on va aussi aborder un peu plus l'histoire longue un peu de l'extrême droite américaine dans une prochaine épisode. Donc, beaucoup de bonnes continues à sortir bientôt sur les ondes de Washington Parano.
Tout à fait. À la prochaine.
À la prochaine.